Bien-aimés, bienvenue à cette nouvelle session d'enseignement de la parole de Dieu sur le service en temps de défi. Encore une fois, très content de pouvoir m'adresser à vous, très content de pouvoir avoir ce temps de partage avec vous. J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, soyez persévérants, confiez dans le Seigneur, il est avec vous, il agira, il vous tient de sa main toute puissante et ses bontés se renouvellent à chaque matin. Donc, prenez courage, le Seigneur est avec nous et nous sommes plus que vainqueurs. Dieu est bon et merveilleux et donc c'est un privilège, une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu, d'avoir ce temps de partage avec vous et avec le Seigneur. Nous croyons qu'il est au milieu de nous, même si tout ceci est fait virtuellement. Nous croyons en sa présence. Nous ne pensons pas qu'il est limité dans son action, ni dans sa puissance, ni dans son efficacité. Alors, remettons ce temps entre les mains du Seigneur, prions, et par la suite, nous irons au sujet pour aujourd'hui. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et ta bonté. Seigneur, merci parce que ta miséricorde, Seigneur, se renouvelle à chaque matin. Seigneur, où serions-nous sans ta grâce, sans ton amour, sans ce sacrifice ultime à la croix? Nous serions perdus, Seigneur. Nous serions morts. Alors, Seigneur, nous venons avec action de grâce, avec reconnaissance, sachant que séparés de toi, Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Mais nous pouvons tout avec toi, Seigneur, qui nous fortifie. Notre vie, Seigneur, est tellement différente avec toi, Seigneur, nous te rendons grâce. Continuellement, tous les jours, Seigneur, pour ce merveilleux cadeau, Seigneur, de te connaître, de t'avoir, Seigneur, dans nos vies. Que tu sois, Seigneur, notre Seigneur et Sauveur. Bénis ce temps de partage, que ta parole, Seigneur, nous bénisse, que ta parole nous instruise, nous parle, nous corrige, nous enseigne, nous convainc. Nous avons besoin, Seigneur, nos cœurs, nos pensées. Et même nos corps aussi ont besoin, Seigneur, de ta parole. Alors, Seigneur, merci pour ce temps, merci pour ce sujet, merci pour ton œuvre au milieu de nous. Alléluia, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes rendus à la session numéro 41. Nous poursuivons la lecture dans Marc au chapitre 11. C'est lorsque Jésus se prépare et fait son entrée à Jérusalem. La semaine dernière, nous avons parlé de l'obéissance comme un élément important dans le déroulement des événements. Aujourd'hui, nous allons encore parler de l'obéissance parce que c'est un sujet qui est très important et qui est vital même pour bien des choses dans notre vie personnel, mais aussi dans notre implication dans le royaume de Dieu, dans le service que nous rendons au Seigneur. Et aujourd'hui, le thème, c'est le parcours de l'obéissance. Mais avant, on va faire une petite introduction, plutôt un petit retour sur ce que nous avions vu la session précédente, la semaine dernière. Donc, on voit, comme je vous ai dit, que Jésus s'apprête à faire son entrée à Jérusalem. Et que ce qu'on a remarqué, c'est que l'obéissance des disciples. On ne mentionne pas ici quels sont les deux disciples qui ont été envoyés à l'autre village pour aller détacher l'ânon. On nous dit juste que deux disciples ont été envoyés. Et ça, c'est important de le marquer. J'en ai pas parlé la semaine dernière, mais c'est parce que ça marque juste que l'important, c'est pas qui le fait. L'important, c'est que Jésus envoie et que des disciples vont, c'est-à-dire que les disciples obéissent. Si on aurait dit, ben, c'est Pierre et c'est Jean ou c'est Jacques et c'est Philippe, à ce moment-là, peut-être qu'on aurait nuancé un peu l'obéissance ou nuancé un peu la réponse que ces disciples-là auraient eue à la convocation ou aux instructions qui avaient été données par le Seigneur. On aurait fait une obéissance probablement selon le caractère ou selon la personnalité du disciple. Mais ici, c'est juste mentionné les disciples. Donc, ça veut dire que c'est pour tout le monde. C'est un message qui est général. C'est une expérience qui est générale pour l'ensemble des disciples dans le corps de Christ, peu importe le temps, la génération, le siècle dans lequel ce disciple-là se trouve, l'obéissance, elle est de mise. Et on a vu que c'est dans ce travail-là, eh bien, il y a Jésus qui envoie, c'est lui qui envoie. Il y a ceux qui sont envoyés, que ce sont des disciples. Et là, on avait parlé aussi un peu, l'important, ce n'est pas des sympathisants qui sont envoyés, ce n'est pas juste des gens qui assistent à l'Église, même si ça fait des années qu'ils sont là, qui connaissent comment le fonctionnement de l'Église doit être, un fonctionnement normal, qui connaissent tout ça. Non, ce sont des disciples, des gens qui ont cette identification toute particulière avec le Seigneur. Qu'ils ont renoncé à leur vie passée, ils ont renoncé à eux-mêmes pour vivre une vie qui va être agréable et focusée principalement sur faire la volonté du Seigneur, faire la volonté de Dieu dans leur vie et de suivre le Seigneur dans ses pas. On voit également qu'il y a une destination qui est définie. On est envoyé, oui, mais on est envoyé où? On est envoyé vers qui? Donc, où est cette destination où les disciples sont envoyés? Et pour faire aussi des actions qui sont définies. Paul parle aux Éphésiens que le Seigneur a déjà préparé des œuvres d'avance pour que nous les mettions en pratique et pour que nous les exécutions. Donc, il y a déjà toute une préparation. Il y a quelqu'un qui envoie. Il y a des gens qui sont envoyés vers un lieu, des gens, donc vers une destination. Et pour exercer des actions, des œuvres qui sont déjà prédéfinies. Et ça nous parle beaucoup de l'importance de la planification dans le service. Le Seigneur, ce n'est pas un Seigneur qui est dans la spontanéité, qui est dans l'impulsivité, puis si ça lui tente, s'il ressent ci ou s'il ressent ça. Non, Dieu est un Dieu de plans. La Bible dit qu'il a formé des plans et des projets, donc il les a pensés, il y a un concept, il y a une structure, il y a un but. Il y a un commencement, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de choses dans cette planification-là. Et l'en service, c'est la même chose. Donc, Dieu ne laisse rien à la chance, Dieu ne laisse rien au hasard. Et la vie du disciple est une vie active de service aussi. Donc, l'action est importante dans ce qu'on va faire ici. L'action, c'est le disciple qui l'a fait. Et cette action-là est une vie qui est active au niveau du service. Et par là, on comprend aussi que si Jésus envoie et que des disciples vont, bien, il y a une collaboration avec Dieu. Le service, c'est ça. C'est lorsque je suis en train de servir, je collabore avec Dieu. Et ça, on va le voir un petit peu plus en détail aujourd'hui. Par rapport à l'obéissance, mais qu'est-ce qu'on a pu ressortir la semaine dernière? C'est que l'obéissance déterminera la qualité de notre service et de notre vie dans le fond. L'obéissance également démontrera la qualité, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Imaginez-vous, les disciples qui sont envoyés vont décident d'aller à un autre village, ou décident d'aller à une autre intersection, et décident de ne pas détacher l'anneau, mais plutôt de chercher un cheval, ou de chercher un char, un chariot pour transporter Jésus. L'obéissance démontrera la qualité et l'avancement également de l'œuvre de Dieu. Et le but ultime de tout ça, ben, Jésus est allé à la croix. Tout ça a amené à contribuer à ce que Jésus aille à la croix, à ce que ce Seigneur, ce Sauveur, mette en place le salut des âmes. Et donc, ce qui est en jeu ici, c'est vraiment le salut des âmes. Il y a des âmes qui vont être sauvées par notre obéissance, même lorsqu'on ne voit pas la grande image, le grand portrait du plan de Dieu, mon obéissance à mon niveau, à moi, peut avoir un impact sur des âmes dans le futur. Et on terminait avec une question. Jésus est aux portes de notre génération, aux portes des temps que nous vivons. Il y a bien des chrétiens qui sont découragés, qui pensent que le COVID a fini, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien qui va se passer, que l'Église ne fonctionne plus. Écoutez, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu s'apprête à faire de grandes choses et c'est pour ça que les leçons comme aujourd'hui sont importantes. parce que justement, Dieu met en place des choses et Dieu s'attend des choses de notre part pour que l'entrée de Dieu dans cette génération-ci soit une entrée qui est triomphante, qui va marquer la génération. Donc aujourd'hui, nous allons voir, dans le fond, le parcours de l'obéissance et je vais vous inviter à aller dans Marc au chapitre 11 et nous allons lire du verset 1 au verset 10 et moi, pendant ce temps-là, je vais partager la présentation. Comme ça, on va tout être prêt pour entrer dans le vif du sujet. Donc Marc chapitre 11, verset 1 à 10. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous dit: Pourquoi faites-vous cela? Répondez: Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très saints. Donc, dans ce que nous voyons dans le parcours de l'obéissance, nous allons nous arrêter sur certains éléments sur lesquels on va parler un peu, parce que je pense que c'est important de bien comprendre l'obéissance et l'importance, je pense, de l'obéissance. Parfois, on le saisit pas totalement, on comprend pas qu'est-ce qui est au cœur du sujet et de la leçon de la parole de Dieu. Et des fois, c'est nécessaire d'aller un petit peu plus en profondeur. Donc, le premier élément, c'est la décision. La décision de qui? La décision des disciples. Jésus dit qu'il envoie des disciples. Et au verset 4, on dit que les disciples sont allés. Et donc, l'obéissance commence par une décision. Une décision d'obéir à Dieu ou non. C'est cette décision qui détermine beaucoup de choses, qui détermine, dans le fond, la suite des choses. Ce qui veut dire que on peut avoir du succès, on peut avoir la réussite dès le premier pas, on peut savoir si ça va aller vers une réussite ou si ça va aller vers un échec. Si notre vie va dans la bonne direction, aussi notre vie ou notre entreprise ou ce que nous nous apprêtons à faire va à un moment donné frapper un mur ou tout simplement ne va donner aucun résultat et ne va pas glorifier le Seigneur. Parce que la décision qui est prise à ce moment-là est importante. Je prends la décision, tu prends la décision d'obéir ou non. Quand Dieu a parlé à Jonas pour l'envoyer à Ninive, Jonas a pris une décision à ce moment-là. Une décision de ne pas obéir à Dieu pour X raisons qui pour lui étaient justifiées et qui pour lui étaient justifiables et qui pour lui, dans le fond, avaient plus de valeur même que Dieu et que sa parole même. Et donc, ici l'importance. L'importance de comprendre que l'obéissance repose sur, en premier, une décision qui est personnelle. Et ce qu'on remarque ici, dans le fond, c'est que Jésus donne toutes les instructions. Jésus leur dit: Allez dans l'autre village, vous allez trouver à telle place, tel ânon, détachez-le. Si on vient vous parler, vous leur dites ça, ça, ça. Dieu donne absolument tout ici, dans le détail près, Dieu leur dit qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'ils doivent faire. La seule chose qui reste aux disciples, c'est l'obéissance. Et ça, c'est important parce que parfois, on pense que Dieu va tout faire, que Dieu va même faire l'œuvre pour nous, que Dieu va tout faire, va tout accomplir et que nous, on va juste rester là assis sur notre chaise dimanche après dimanche et que l'œuvre de Dieu va avancer comme ça. Non, même si Dieu donne toutes les instructions, même si Dieu te dit, voici dans le détail ce que je vais faire avec toi, ou ce que je veux, la façon comment je veux t'utiliser, ou la façon comment je veux que toi, tu me serves, mettons, dans la prochaine année, bien, il n'en demeure pas qu'il y ait une décision personnelle d'y prendre part ou non. Tu as une décision à prendre, est-ce que tu y vas ou tu n'y vas pas? Est-ce que tu obéis ou tu obéis pas? Et parfois, Dieu va pas tout dire. Des fois, ici, dans ce cas-ci, le Seigneur est allé quand même pas mal dans les détails. Peut-être parce qu'il s'est dit, les disciples que j'envoie ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'avoir jusqu'à ce niveau-là de révélation. Mais Abraham n'a pas eu ce genre de révélation-là. Mais Abraham a dû obéir aussi et Abraham a dû mettre en application sa foi aussi petite dans un Dieu qu'il connaissait pas et qu'il comprenait pas. Mais il a mis sa foi. Donc, que notre foi soit petite, que notre compréhension soit immense, que nous ayons un petit peu de détails, que nous ayons toute une révélation dans le plus petit, infini détail de la volonté de Dieu. Ça change pas. Il faut quand même prendre la décision d'y aller et de s'embarquer. Et il y a des éléments dans notre vie, il y a des éléments autour de nous qui nous empêchent d'obéir. Le premier, c'est le raisonnement humain. Dieu n'accommode pas son message ni sa parole à notre raisonnement humain parce qu'il y a ses limites. Et Dieu, il est sans limite. Donc, lorsque nous voulons appliquer notre raisonnement dans le plan, dans les instructions de Dieu, bien, on limite la parole de Dieu et par le fait même, on limite le Seigneur. Faisons attention parce que le raisonnement ne nous amènera pas là où est-ce qu'on doit aller en termes d'obéissance, en termes de service. Dieu veut pas qu'on comprenne. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Et c'est pour ça que, bien des fois, Dieu ne nous révèle pas tout du premier coup parce que, notre raisonnement va nous amener ailleurs, notre raisonnement va vouloir naturellement détruire tout ce que Dieu aura préparé. Donc, Dieu préfère nous donner peu à peu. Et l'importance de la foi. Comme je vous dis, la foi versus le raisonnement, qu'est-ce qui est plus précieux aux yeux de Dieu? C'est qu'on lui fasse confiance. C'est qu'on lui fasse confiance parce que notre raisonnement ne pourra jamais totalement comprendre le Seigneur. En tout cas, pas ici, en étant de ce côté-ci de la vie. Une autre chose, c'est le manque de foi. Et le manque de foi lié aussi avec le manque de connaissance de Dieu. Le fait qu'on ne connaisse pas bien le Seigneur, qu'on connaisse très peu de qui il est, de son caractère, de sa personnalité, joue contre nous. Bien des fois, lorsque nous sommes appelés à obéir, nous sommes appelés à faire confiance, nous sommes appelés à suivre des instructions, parce qu'on ne connaît pas le Seigneur, on bloque. Parce qu'on n'a pas confiance dans le Seigneur, on bloque. Et ça vient miner notre vie et l'obéissance que Dieu s'attend. Et donc, la qualité de vie et la qualité de l'œuvre de Dieu. L'amour pour le monde et ses plaisirs, parce que bien sûr que Dieu, son parcours qu'il a pour nous, ce n'est pas un parcours qui va nous amener dans les plaisirs du monde. Ce n'est pas un parcours qui va nous amener dans le confort du monde. C'est au contraire, c'est un parcours qui va nous sortir de notre zone. C'est un parcours qui va nous éloigner davantage des plaisirs et des choses qu'il y a dans le monde qui est ce système, dans le fond, où ce que, les plaisirs de la chair, les passions sont mis devant. C'est ce système qui est, dans le fond, contrôlé et organisé par l'ennemi pour garder les gens emprisonnés et les empêcher de venir à l'Évangile. Et donc, l'amour pour le monde. Il y a des chrétiens qui ont un grand amour pour les choses du monde, et donc l'obéissance est un gros défi à ce moment-là. L'obéissance est un gros défi. Il y a ce jeune homme riche qui, à un moment donné, dit, ben, Seigneur, moi, je respecte toute la loi, j'ai tout fait, j'ai tout accompli la loi, tu sais, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Et là, Jésus lui dit, ben, vends tous tes biens, donne de l'argent aux pauvres et viens, suis-moi. Et il n'a pas été capable de le faire. Pourquoi? Parce que l'amour pour le monde, l'amour pour le monde a été un obstacle pour lui, pour obéir le plan de Dieu. L'orgueil, c'en est un aussi, l'orgueil qui on ne le pense pas, mais l'orgueil nous rend rebelles face à Dieu. L'orgueil, bien des fois, va nous positionner d'une façon mauvaise face à Dieu, et tout le reste va nous donner un mauvais fruit ou un fruit qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Orgueil parce qu'on va pas accepter d'être utilisé dans tel ou tel domaine, ou orgueil parce qu'on va être envieux que quelqu'un d'autre soit envoyé ou soit au service dans un secteur, dans une activité, dans un domaine où est-ce que nous aimerions être, où est-ce que nous pensons que nous pourrions faire un meilleur travail. Orgueil parce que on aimerait être en avant, on aimerait être vu, on aimerait être connu de tout le monde, et voilà que ce qu'on nous donne plutôt, c'est un service qui ne vient pas nourrir et satisfaire notre orgueil. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut demander au Seigneur de travailler le caractère. Parce que, il y a des chrétiens que pour eux, s'ils ne sont pas devant, s'ils ne sont pas un rôle important, ils ne serviront pas. Il y a des gens qui dénigrent des services parce que pour eux, c'est inférieur et c'est pas leur qualité. Écoutez, on sert le Seigneur nous place là où il veut. Le Seigneur nous place là où il veut et il s'attend de nous que nous ayons un cœur humble. Un cœur humble. Il y a des gens qui veulent servir Dieu, qui veulent prêcher. Ils n'ont jamais fait un service dans l'Église. Moi, j'ai commencé le service en étant à la porte, en étant portier. C'est lorsque j'ai commencé mon service dans l'église. Et par la suite, il y a eu la musique qui a embarqué. Et par la suite, il y a eu l'enseignement et la prédication. Mais c'est venu beaucoup, beaucoup plus tard. J'ai appris le service. J'ai appris à servir les gens en étant portier. Et j'aurais pu dire, ben là, moi, Dieu m'a appelé à plus grand que ça, puis j'ai beaucoup plus de talent, puis que je devrais être déjà à l'avant, puis pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas un micro, puis pourquoi est-ce que je ne me donne pas de responsabilité majeure? Écoutez, c'est qui parle, là? C'est qui parle? Est-ce que c'est l'orgueil qui parle? Faut faire attention, parce qu'on peut s'auto-justifier facilement. Devant ces choses, mais Dieu voit le cœur et Dieu sait si à un moment donné ce cœur va qui est tordu va amener cette personne-là à la désobéissance et à être un blocage par rapport à Dieu. Donc faisons très 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 attention à ça. Et l'autre, c'est des forteresses spirituelles. Des forteresses spirituelles dans la pensée qui dans le raisonnement encore, ça revient un peu au raisonnement, mais des forteresses dans la pensée qui bloquent toute parole de Dieu, qui empêchent la personne d'avancer. La personne veut faire des pas de foi, elle en fait deux vers l'avant et en fait trois vers l'arrière. C'est tout le temps compliqué à avancer, à pouvoir vivre une vie obéissante. C'est difficile, c'est probablement parce qu'il y a des forteresses spirituelles qui ont besoin d'être renversées. Et tout cela, dans le fond, représente, et pour en avoir plus, mais représente des barrières à l'obéissance. Et ça, c'est même pas, on ne parle même pas des facteurs externes. Tout ça, c'est des facteurs qui sont internes, dans le plus profond de mon cœur et de ton cœur, qui sont un obstacle à prendre une décision claire et une décision qui est engagée de servir le Seigneur. Et donc, une question, qu'est-ce qui influence ton choix d'obéir ou non? Il y a des éléments présentement qui influencent ton choix, ta décision d'obéir au Seigneur ou de ne pas obéir au Seigneur. Et donc, l'importance comme premier élément de choisir, de prendre une décision. Et Dieu le dit à Israël. Là, j'ai juste pris quelques passages dans les deux versets, mais Dieu dit à Israël, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Donc choisis la vie, c'est une décision que tu prends. Quand tu choisis la vie, c'est que tu décides d'obéir à Dieu. Donc le premier élément, la décision. Le deuxième aspect qu'on doit couvrir dans le parcours de l'obéissance, c'est la collaboration. On en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière. Jésus envoya deux de ses disciples. On voit ça au verset 1. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? C'est que Jésus aurait pu faire tout le travail tout seul. Jésus est autosuffisant. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Dieu sait tout, contrôle tout et partout. Dieu, est-ce qu'il a besoin de toi, de moi? Non. Il aurait pu faire tout ce travail-là tout seul. Il aurait pu dire à l'annon, à l'annon, viens-t'en et l'annon serait venu. L'annon aurait fait le chemin jusqu'à Jésus, l'aurait trouvé. Mais Jésus décide d'impliquer, Jésus décide de faire participer ses disciples dans le travail et dans l'œuvre. Et Dieu a créé l'Église pour qu'elle participe dans son œuvre et dans l'avancement de son royaume ici sur terre. Et ici, la clé, dans le fond, pour devenir collaborateur du Seigneur, bien, c'est l'obéissance. C'est aussi simple que ça. Du moment où ce que les disciples, ces deux disciples-là, ont pris la décision d'obéir et qu'ils sont allés, bien, ils sont devenus des collaborateurs. Ils sont devenus des collaborateurs de Dieu. Tu veux être collaborateur de Dieu, tu dis que tu sers Dieu, que tu veux servir Dieu, bien, la clé pour rentrer là-dedans, c'est l'obéissance. C'est pas le talent. C'est pas ton talent, c'est pas ta connaissance, c'est pas ton expérience, non. Ce n'est pas que ton arrière-plan familial, si tout tes, ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père a été missionnaire. Ce n'est pas ça. La clé pour devenir collaborateur du Seigneur, c'est l'obéissance. C'est ta capacité à faire confiance à Dieu plus qu'à ton expérience, plus qu'à ton talent, plus qu'à ta connaissance. As-tu cette clé-là dans ta vie? As-tu cette clé-là dans ta vie? Parce que c'est ce qui va déterminer si tu es un collaborateur ou si tu es plutôt quelqu'un qui fait du sabotage. Mais le plus triste, c'est que tu penses que tu collabores avec Dieu alors qu'au contraire, tu nuis à Dieu. Parce qu'encore là, la clé pour collaborer avec Dieu, c'est l'obéissance. Paul dit, j'ai planté. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Et au verset 9 de 1 Corinthiens chapitre 3, il dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Et là, il dit, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Paul comprend cela et dit, écoutez, Paul a arrosé, moi j'ai arrosé, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. On a tous eu un travail différent à faire dans l'œuvre, mais c'est Dieu qui retire toute gloire, c'est Dieu qui fait croître. Et vos versets, les versets entre le 6 et le 9, vous voyez aussi que l'important, c'est pas celui qui travaille, c'est pas celui qui plante, c'est pas celui qui arrose, mais c'est celui qui fait croître. Et c'est Dieu qui retire la gloire. Nous sommes ouvriers avec Dieu, mais c'est Dieu qui, à la fin, reçoit et retire toute la gloire. C'est ça le service envers le Seigneur. Et j'ai mis en jaune ouvrier. Ouvrier dans le grec, c'est sunergos, qui veut dire travailler avec quelqu'un, contribuer. Et voilà pourquoi il est important que notre obéissance soit au cœur de notre service de collaboration avec Dieu, parce que nous sommes appelés à travailler avec lui, mais nous sommes appelés aussi à contribuer. Et l'obéissance va nous amener à collaborer, qui va nous amener à contribuer. Le contraire s'applique aussi. La désobéissance va nous amener à nuire et va nous amener à enlever ou à détruire ou à défaire. Et personne ne voudrait se trouver dans cette position-là face à Dieu. En pensant dans notre raisonnement déchu que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu alors que en réalité nous sommes en train de faire le contraire. C'est pas parce que je sers Dieu que je suis dans une position de service que je suis en train de collaborer. Je peux être devant vous avec une Bible, un micro et je suis en train de détruire l'œuvre de Dieu parce que dans mon cœur, je n'ai pas d'obéissance. Parce que je n'ai pas la clé dans ma vie qui fait en sorte qu'aujourd'hui je suis un ouvrier avec Dieu, que je collabore et que je contribue avec lui. Et remarquez que Paul ici fait deux illustrations. Il parle d'un champ et il parle d'un édifice. Ce sont deux illustrations qui parlent d'un travail qui demande de la planification, qui demande des ressources, qui demande du temps. Et dans lequel il va avoir différentes personnes qui vont jouer différents rôles. Il y a le laboureur, il y a celui qui va arroser, il y a celui qui va planter, il y a celui qui va récolter. Il y a différentes personnes qui vont venir travailler sur ce champ. Et même chose pour l'édifice. Il y a ceux qui vont placer, qui vont creuser, qui vont mettre les fondements. Il y a par la suite ceux qui vont mettre la brique, qui vont faire le moulage, qui vont mettre les murs, les parois, le toit. Il y a différentes personnes qui vont intervenir à différents moments, qui auront un rôle différent à jouer. Et pour que cela fonctionne, eh bien, chacun doit comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce champ-là. Tout le monde doit comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cet édifice-là en construction, ce chantier de construction-là. Et donc, il y a une vision, il y a un rôle que chacun doit avoir, mais il y a aussi un travail d'équipe, une communication qui doit avoir entre les différents groupes ou les différentes personnes qui travaillent pour arriver à accomplir cette vision-là. Et donc, l'importance de la collaboration, c'est d'adhérer à la vision. Pas ma vision, mais la vision du Seigneur. Si je suis pour être collaborateur, ouvrier de Dieu, c'est parce que j'adhère à sa vision. Je me soumets à sa vision. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Ce n'est pas mon raisonnement qui va venir influencer la vision de Dieu. Non, Seigneur, c'est quoi ta vision? J'y adhère sans aucune condition. Deuxièmement, c'est que j'accepte mon rôle, tout comme j'accepte le rôle de mon frère et de ma sœur. Vous savez, il y a des gens qui acceptent mal leur rôle et d'autres qui acceptent mal le rôle des autres. Mais dans une bonne collaboration dans le corps de Christ, j'accepte mon rôle et j'accepte le rôle de mes bien-aimés. Vous savez, à un moment donné, quand je priais pour que Dieu me dirige un peu dans ma vie, que Dieu me montre qu'est-ce qu'il voulait faire de moi, moi j'ai tout mis sur la table. Et moi, je ne courais pas après une position ou une responsabilité. Je ne courais pas après le type de pasteur. Et j'ai dit au Seigneur, si je suis pour faire le ménage, si tu m'appelles à nettoyer les chaises, passer l'aspirateur, à être l'assistant du frère Gilles Lompré, qui est celui qui s'occupe ici de l'entretien de l'édifice, si tu m'appelles à être son assistant, je vais le faire avec joie. Si c'est ça mon appel, je vais le faire, Seigneur. Moi, je veux te servir. Donc, j'étais prêt à accepter le rôle que le Seigneur avait pour moi. Et c'est important d'accepter le rôle. Pas juste mon rôle, mais accepter le rôle des autres aussi. Donc, adhérer à la vision, accepter son rôle et le rôle des autres et communiquer. Communiquer avec Dieu par la prière, avoir une vie de prière, c'est tellement essentiel dans la collaboration avec Dieu. Parce que si Dieu va à gauche, il faut aller à gauche. Si Dieu va à droite, on s'en va à droite, là. Et c'est dans la prière, dans la vie de prière, qu'on reçoit ça, qu'on est sensible à la volonté de Dieu. On est sensible à la direction que Dieu veut prendre par rapport à son œuvre. Et également la communion les uns avec les autres dans le corps de Christ, qui s'avère quelque chose tellement essentiel dans la collaboration. Donc voilà, premier élément, la décision, et deuxièmement, la collaboration. Donc on rate davantage dans le sujet. Par contre, il y a un point qu'il faut soulever, c'est que toute personne qui prend la décision d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole, va expérimenter de l'opposition, va expérimenter de la résistance dans sa vie. Verset 5, quelques-uns de ceux qui étaient avec, qui étaient là, de leur dire, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âne? Les deux disciples vont dans le village, rentrent dans le village, trouvent l'âne, le détachent, et là, ils se font face devant des gens. Dans d'autres versions, on dit que c'était les maîtres de ces animaux-là qui se sont présentés là avec d'autres personnes qui étaient là et qui disent, qu'est-ce que vous faites là? Que faites-vous? Pourquoi est-ce que vous détachez cet âne-là? Ils leur posent des questions et les questions sont tellement parfois des pièges. Le diable a amené Adam et Ève à chuter avec une question. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que le Seigneur a vraiment dit cela? Est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui vous a dit ça par rapport au fruit de la connaissance du bien et du mal? Le terme faire ou le verbe faire, c'est poieo, qui veut dire observer, mettre en pratique. Donc, ici, les disciples se font questionner sur un aspect qui touche beaucoup l'obéissance, parce que, en d'autres mots, il est en train de leur dire, qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique, là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'observer? C'est-à-dire d'observer, c'est de suivre soigneusement et de mettre en pratique soigneusement. Donc, c'est le type de questionnement qu'on peut recevoir. C'est le type d'opposition par la mise en doute qu'aujourd'hui même nous pouvons recevoir, nous, chrétiens, avec notre façon de vivre. Nous voulons vivre d'après la parole de Dieu. Et il y a des gens qui vont nous dire, ben, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en pratique? Qu'est-ce que vous êtes en train d'observer là? Que faites-vous? Puis pourquoi est-ce que vous le faites? Dans le fond, à quoi ça sert? C'est quoi l'utilité? C'est quoi la valeur derrière? C'est quoi le gain pour vous de faire ce que vous êtes en train de faire? C'est quoi le gain de mettre en pratique, de respecter la loi de Dieu? C'est quoi le gain pour vous? Quel est l'avantage pour vous d'aller à l'église, de donner votre dîme, de vous abstenir de choses qui sont tellement le fun? Pourquoi est-ce que vous faites? Dans quelle utilité? Tout ça pour nous amener, dans le fond, à avoir un questionnement. Et parfois, l'opposition vient par le questionnement. Des fois, on pense que l'opposition, c'est quelque chose de fort, d'agressif qui va être là devant notre visage, mais le diable est rusé et peut utiliser aussi la séduction, peut arriver dans une façon très douce, juste avec une question, mais une question qui peut amener une réflexion très loin, et surtout très loin du Seigneur, et très loin de l'obéissance que le Seigneur s'attend de nous. Des sources d'opposition dans notre vie, il y a la chair, le diable, il y a le monde. Parfois, le but est seulement de nous faire douter. Et juste en ayant ce doute-là, le travail est fait. Le travail d'opposition à l'obéissance est fait. Parce que là, à ce moment-là, il n'y a plus cette conviction-là, il n'y a plus cette confiance-là. Ouh, on n'est pas trop sûr. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et qu'est-ce que je vais gagner moi? Est-ce que c'est pas un prix trop élevé pour moi à payer? Bref, toutes sortes de choses qui vont nous amener à douter de notre position, à douter de l'importance d'obéir à Dieu et de rester là où est-ce que le Seigneur nous a demandé de rester, de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, parfois, le seul but, c'est de nous amener à douter, douter de Dieu, douter de sa parole, et le reste va venir par lui-même. Il y a un grand mensonge également que j'aimerais amener ici et présenter. C'est le mensonge qui dit que si je suis obéissant à Dieu, eh bien, tout va bien aller. Si je marche avec Dieu, eh bien, je ne connaîtrai pas la souffrance. Et ça, c'est un gros mensonge. Hein? On pense que parce qu'on est dans l'obéissance, parce qu'on fait bien les choses devant Dieu, eh bien, il n'y a aucun mal qui va nous arriver, il n'y a aucune souffrance qui va nous arriver. Et le danger avec cette croyance-là, c'est ce mensonge qui habite beaucoup de chrétiens, c'est que lorsque les difficultés surviennent, lorsqu'il y a les épreuves, les tribulations, les tristesses, eh bien, la foi devient une source d'amertume et même de ressentiment face à Dieu, face à l'Église, parce que on se sent, soit on se sent mal parce qu'on pense qu'on a péché, mais ou on se sent, on a du ressentiment envers Dieu, on a un ressentiment avec les frères parce qu'on pense qu'on ne nous a pas dit la vérité ou que c'est à cause d'eux que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, alors que la base, à l'origine, c'est que la foi a été construite ou notre vie a été bâtie sur un mensonge. Notre vie chrétienne a été bâtie sur un mensonge qui dit que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous marchons avec Dieu, il n'y aura pas d'épreuve, il n'y aura pas de souffrance. C'est pas vrai. Jésus a eu de l'opposition, les disciples ont eu de l'opposition, l'Église primitive a eu de l'opposition, ils ont été persécutés, ils ont été mis à mort. Et dans toute l'histoire de l'humanité, toute personne qui a voulu faire la volonté de Dieu a eu de l'opposition, a eu de la résistance, de différentes sources, de différentes manières, mais il y a eu de l'opposition. Et ils ont eu des difficultés. Donc, croyons-nous ce mensonge-là? Est-ce que ce mensonge est présent dans notre vie? C'est à se poser la question. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est qu'il faut s'attendre à expérimenter de l'opposition quand nous prenons la décision d'obéir à Dieu. Lorsque on est vraiment collaborateur avec Dieu, c'est sûr que là, on devient une cible. Et on devient vraiment un sujet pour l'ennemi d'attaquer, d'essayer de mettre de l'opposition, de mettre des difficultés pour que on lâche prise, pour qu'on se décourage, pour qu'on se fatigue et que tout simplement on cesse de faire ce que nous étions en train de faire pour le Seigneur. Mais Jésus, dans sa bonté, il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Donc là, c'est clair. Vous pouvez plus dire, je ne le savais pas, on ne me l'a pas dit. C'est Jésus qui le dit dans sa parole. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Mais allez de l'avant, j'ai vaincu le monde. Donc toute tribulation que vous vivrez, je l'ai passée, j'ai vécu ces tribulations-là et j'ai triomphé. Et parce que j'ai triomphé et que vous êtes collaborateur avec moi, vous triompherez aussi. Vous verrez ma victoire dans votre vie. Vous verrez ma récompense, ma victoire. Vous verrez mon triomphe, ma gloire dans cette situation-là, au milieu de la tribulation. Vous verrez ma grâce. Vous verrez ma paix. Vous verrez ma lumière. Vous verrez ma parole en action. Vous verrez ma fidélité. Vous verrez ma providence. Vous verrez tout cela. Parce que j'ai vaincu le monde. Donc prenez courage. Donc oui, il y aura l'opposition. Si vous décidez d'obéir à Dieu, de vivre une vie obéissante à Dieu, il y aura de l'opposition. Mais prenez courage. Le Seigneur est avec vous. Et l'autre élément dans le parcours de l'obéissance, nous avons vu la décision, la collaboration, il y a l'opposition, mais il y a le résultat. Et nous allons lire dans les versets 9 et 10. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Béni ici, dans le terme grec, c'est eulogio, qui veut dire louer, célébrer par des louanges. Donc ici, alors que Jésus s'apprête à rentrer assis sur cet ânon que les disciples sont allés chercher. Donc les disciples ont été obéissants, ils ont collaboré, ils ont contribué dans l'œuvre du Seigneur et ça a permis que Jésus fasse son entrée et qu'il y ait cette louange qui se lève au Seigneur alors qu'il descend la montagne des Oliviers et qu'il fait tranquillement son entrée dans la ville de Jérusalem. Et ça doit nous parler. C'est important parce que le but de l'obéissance, le résultat de ce parcours d'obéissance-là, c'est que le Seigneur soit glorifié, de un, et que le Seigneur soit célébré. C'est que le Seigneur soit célébré par des louanges. C'est que le Seigneur soit élevé. Et tout ça part de ma décision personnelle d'obéir à Dieu, d'obéir à sa parole. Ça commence par une décision d'obéir à Dieu, mais ça s'accomplit par, ou ça se termine comme résultat, qu'il y ait des louanges, qu'il y ait des célébrations qui sont montées vers le Seigneur. Trop souvent, nous regardons l'obéissance depuis le regard ou la vision de qu'est-ce que l'obéissance peut me rapporter. Et il y a plein de versets qui parlent des bénédictions qu'il y a à obéir à Dieu. Ça, Dieu en parle, il le dit. Il y a des avantages à obéir à Dieu. Et on a des études et des conférences sur les avantages et les bénédictions qui viennent à obéir à Dieu. Et ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème. On regarde souvent l'obéissance depuis cet angle-là seulement, et on oublie que Dieu tire profit aussi de mon obéissance. Et on parle souvent qu'est-ce que l'obéissance va me rapporter, mais on ne parle pas de qu'est-ce que mon obéissance va rapporter à Dieu. Et ça, c'est important parce que pour Dieu, l'obéissance est vraiment au cœur de toute chose. Ce que l'obéissance apporte à Dieu, c'est de la louange. C'est que Dieu soit élevé, c'est que Dieu soit béni, c'est que Dieu soit exalté. Et ce qu'on a vu ici, dans le fond, cette louange qui est célébrée envers le Seigneur, ce n'était pas une louange qui était dans le calendrier. Donc, ce n'était pas une louange qui était planifié selon les fêtes, qu'à ce moment-là, il fallait faire ce que les gens ont fait. Non. C'était pas planifié. Donc, c'était pas forcé. C'était pas dans un calendrier dans lequel il fallait respecter des rituels. Non. Ça a été une louange non planifiée, mais une louange qui était authentique, une louange qui est venue du cœur, une louange qui fut généreuse aussi. Et ça, on va le voir un petit peu plus en détail la semaine prochaine. Mais c'est ça que ça apporte à Dieu. Ça apporte à Dieu de la louange. Ça apporte que Dieu soit élevé, que Dieu soit là, la place où il doit être. Et parfois, on ne fait pas le lien parce qu'on fait juste le lien entre, bien, si j'obéis à la parole de Dieu, voici ce que j'obtiens en retour. Mais on ne fait pas le lien entre, si je suis obéissant, voilà ce que Dieu reçoit. Voilà ce que Dieu va avoir comme résultat, comme fruit à la fin. Et je pense qu'en tant que serviteur et collaborateur de Dieu, il faudrait regarder cet angle-là beaucoup plus que l'angle de mon intérêt personnel. Qu'est-ce que j'ai à gagner? Non, qu'est-ce que Dieu a gagné de mon obéissance? Qu'est-ce que Dieu a à gagner de mon obéissance? Qu'est-ce que Dieu a à gagner? Je pense que c'est là la question qu'on doit se poser. Aujourd'hui, voici Dieu parle, ou plutôt Samuel parle à Saül et dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Pourquoi? Parce que c'est pas planifié. L'obéissance, c'est quelque chose qui vient du cœur, c'est quelque chose qui est authentique, qui est vrai. Tu peux pas feindre une obéissance, ou tu l'es ou tu l'es pas. Mais les sacrifices, les gens le faisaient par automatisme, par mécanisme, il n'y avait plus le cœur nécessairement à ça. On n'avait plus la passion, l'engagement, alors que l'obéissance, eh bien, amène de la louange. Et pour Dieu, c'est ça qu'il dit, l'obéissance, ce que je retire de l'obéissance, m'apporte plus de ce que je peux retirer d'un sacrifice. Et donc, une obéissance du cœur vaudra toujours plus aux yeux de Dieu que le respect des traditions. Et la désobéissance, en contrepartie, vole la louange à Dieu. Lorsque je suis désobéissant, à quelque part, je dérobe Dieu de quelque chose. Je lui vole quelque chose. Et encore là, on ne veut pas se retrouver dans cette situation-là. Pour terminer, un petit mot sur l'importance de l'obéissance. On le retrouve dans la Grande Commission lorsque Jésus dit: Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Remarquez que Jésus ne dit pas: Enseignez-leur tout ce que j'ai prescrit. Bien des fois, c'est ce qu'on fait. On enseigne tout ce que Jésus a prescrit, mais on n'enseigne pas à observer. Donc, on reste juste à un niveau théorique, si on peut dire, à un niveau d'information, à un niveau de connaissance, mais pas à un niveau pratique, à un niveau réel et tangible. Et c'est là où ce que le christianisme et bien des églises doivent faire le pas. Où est-ce que c'est beau enseigner, mais ce n'est pas juste d'enseigner qu'est-ce qu'il y a dans la Bible, c'est d'enseigner à observer. Donc, c'est d'enseigner à être obéissant. C'est d'enseigner à mettre en pratique, à connaître, mais aussi à mettre en pratique. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, le discipulat, ce n'est pas d'enseigner tout ce que Jésus a prescrit. Le discipulat, le vrai, c'est d'enseigner l'importance d'être obéissant et de mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Et ça, c'est dans la Grande Commission. Donc, ce n'est pas juste d'évangéliser, ce n'est pas juste d'enseigner. Non, il y a un aspect pratique et tangible, très, très pratico-pratique. Importance d'être obéissant, donc de mettre en pratique tout ce que le Seigneur a prescrit. Donc, en résumé, dans le parcours de l'obéissance, il y a la décision. L'obéissance commence par un oui ou par un non par rapport à obéir le Seigneur. Et il y a un petit conseil sur être vigilant sur ce qui nous empêche d'obéir librement le Seigneur. Qu'est-ce qui en nous nous empêche de vivre une vie libre dans l'obéissance? Deuxièmement, la collaboration. L'obéissance, c'est la clé qui nous amène à être collaborateurs, à devenir collaborateurs de Dieu. Et lorsqu'on obéit, on collabore, on contribue. On adhère à la vision, on accepte notre rôle, on accepte le rôle des autres et on a cette communication fluide avec le Seigneur, avec la communion, avec la prière que nous avons dans notre vie. Ça va nous aider, tout ça va nous aider lorsque l'opposition va se présenter, que ce soit par la chair, le diable, le monde, on va être mieux préparé. On va être mieux équipé également à rester dans notre position, dans notre décision d'obéissance, parce qu'il faut s'attendre à avoir de la résistance, du doute, du questionnement, bref, de l'opposition lorsque nous prenons la décision d'obéir à Dieu. Et le résultat, eh bien, c'est la louange, c'est que Dieu soit célébré, c'est qu'il soit glorifié. Trop souvent, nous regardons nos gains. Nous mettons le focus sur nos bénédictions, nos avantages, et pas sur qu'est-ce que Dieu gagne avec mon obéissance. Et je pense que ça serait bien, très très bien pour chacun d'entre nous, que nous puissions en regarder plutôt qu'est-ce que Dieu gagne en étant moi obéissant à sa parole. Et qu'une obéissance du cœur vaudra toujours plus aux yeux de Dieu que le respect des traditions. Et comme on a dit, le discipulat est d'enseigner l'importance d'être obéissant et de mettre en pratique tout ce que Jésus a prescrit. Donc voilà pour l'obéissance, pour ce parcours. J'espère que ça vous aura éclairé sur bien des choses dans votre vie. Dans la mienne, ça fait ce travail. Et je prie que le Seigneur continue à faire cette œuvre dans ma vie pour que je sois encore plus libre d'obéir à Dieu dans tout ce qu'il aura préparé pour moi. Et c'est la même prière que j'ai pour vous. Alors nous allons prier. Seigneur, que nos cœurs soient obéissants. À la lumière de ta parole, Seigneur, nous voyons ce parcours. Nous voyons tout ce que nous retrouvons, Seigneur, dans l'obéissance. Premièrement, la décision. La décision, Seigneur, d'obéir. Et est-ce que nous sommes libres, Seigneur, de prendre cette décision-là? Ou est-ce qu'il y a des liens dans notre vie qui nous empêchent, Seigneur, d'être véritablement obéissants? Sonde nos cœurs et parle-nous, Seigneur. Montre-nous de façon individuelle et spécifique. Parle également, Seigneur, par rapport au service, à la collaboration que nous faisons, que nous pensons faire, Seigneur. Qu'elle puisse être, Seigneur, en soumission à toi, à ta vision, au rôle que tu nous donnes, et également, Seigneur, dans la communion, Seigneur, que tu nous appelles à avoir avec toi et avec nos bien-aimés, Seigneur Jésus. Comprenons que l'obéissance, c'est la clé, Seigneur, pour une vie, Seigneur, de service, de contribution à ton royaume. Seigneur, aide-nous également dans l'opposition lorsque le questionnement, le doute se pointe, Seigneur, à l'horizon. Lorsque nous sommes questionnés sur notre façon de vivre, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, avoir les paroles de sagesse. Seigneur Jésus, restez ferme dans notre décision, Seigneur, d'être obéissant à toi, Père éternel. Et que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Que nous commencions à regarder quels sont les gains pour toi, Seigneur, de l'obéissance. Pas juste quels sont mes avantages. Parce que des promesses et des bénédictions, Seigneur, il y en a plein dans la Bible. Mais Seigneur, quels sont tes gains? Qu'est-ce que tu gagnes, Seigneur, que je sois obéissant? Que ton nom soit béni, Seigneur, et exalté. Merci de nous parler, de nous instruire. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Alors, que Dieu vous bénisse. Prenez cela à cœur, que vraiment Dieu puisse vous montrer s'il y a des choses dans votre vie qui vous empêchent d'être vraiment obéissant, dans toute la portée que cela représente dans votre vie, et que le Seigneur vous fortifie et continue à faire son œuvre dans votre vie. Je vous dis bonne soirée, shalom, et à la prochaine. Au revoir.